Merci d'être venu pour cette première séance de nos rendez-vous de crise, donc organisée par l'École des hautes études en sciences sociales et son service des cercles de formation, dont je suis responsable. Je m'appelle Françoise Saban. Alors, ces rendez-vous de crise, nous les tenons depuis à peu près 3 ans sur divers sujets. Qui font crise, comme le titre l'indique bien. Et ces dernières années, ces rendez-vous de crise étaient orientés, disons que nous avions la perspective des élections. Eh bien, les élections sont passées, mais nous continuons les rendez-vous de crise, puisque, comme vous vous en êtes rendu compte, la crise continue. Donc, pour commencer cette année, nous avons choisi... une crise parmi d'autres, dont le titre, et nous avons pour titre « Sommes-nous tous habitants de Fukushima ?» Alors, le 11 mars, qu'est-ce qui s'est passé le 11 mars 2011, au fait
Je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé le 11 mars 2011 ?
Ah oui, Fukushima, ça y est, ça me revient. Ah ben oui, il y a eu un tremblement de terre, là, terrible, terrible tremblement de terre. Ah puis, il y a eu un tsunami, on se souvient des images absolument incroyables, c'était fou, on voyait des bateaux comme des fétus de paille qui passaient dans les champs, comme c'était vraiment impressionnant. Hein. Mais c'était quand déjà ? Ah oui, le 11 mars 2011. Ah ben, les pauvres Japonais, vraiment, c'est terrible, hein. Terrible. Oui, mais au fait, quel rapport ça a avec nous, tout ça ? Ben, ça n'a aucun rapport. C'est loin, le Japon, c'est très, très loin. D'abord, il n'y a pas de tremblement de terre ici. Jamais. Pas de tremblement de terre, monsieur, comment ? Vous contestez ? Mais non, il n'y a pas de tremblement de terre. Et puis encore moins de tsunami. Et c'est pas moi qui le dis, hein. C'est certaines personnes très importantes l'ont dit. Donc, il n'y a rien à craindre, rien à voir... Rien à comparer. Eh bien, justement, nous, ce soir, on voudrait entrer dans l'ordre des comparaisons et voir un petit peu ce qu'on peut dire sur cette affaire. Alors, pour ça, nous avons invité ce soir Bernard Laponche, que vous voyez là-bas, à la gauche de Cyril Meunier, qui est l'auteur d'un ouvrage intitulé « En finir avec le nucléaire, pourquoi et comment ?» et qui est... physicien qui a travaillé à l'élaboration des centrales nucléaires françaises et ensuite fait beaucoup d'autres choses. Et puis, nous avons aussi invité Michael Ferrier, qui est l'auteur d'un livre extrêmement intéressant qui s'appelle « Fukushima, récit d'un désastre ». Je vous recommande évidemment la lecture de ces deux ouvrages et d'un certain nombre d'autres qui sont là, que vous pourrez regarder tout à l'heure, à la fin de cette séance. Et Michael Ferrier est un écrivain et enseigne la littérature française dans une université japonaise de Tokyo. Et pour le débat, la conversation qu'ils vont avoir sur la question de ce soir, sommes-nous tous habitants de Fukushima ? La séance sera donc animée par Cyril Lemieux, qui est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Nous sommes dans les murs de l'École des hautes études en sciences sociales, et qui est sociologue, et qui est un spécialiste des médias, et qui s'est lui aussi intéressé à la question du nucléaire et de sa visibilité dans les médias. Je m'arrête là, et je laisse la parole à Cyril Lemieux.
Merci beaucoup, Françoise. Je vais dire juste simplement quelques mots, peut-être, d'introduction. Avant de céder la parole aux intervenants, généralement, ces rendez-vous de crise mobilisent des chercheurs. Et ce soir, c'est un petit peu particulier parce que des chercheurs en sciences sociales, j'entends, puisque nous avons ce soir des gens qui ne le sont pas. Et je pense que ça va faire la richesse de cette soirée, cette pluralité de manière de concevoir le problème du nucléaire, puisque nous allons avoir le regard de quelqu'un qui est écrivain et professeur de littérature. Et puis le regard de quelqu'un qui est, alors je ne sais pas, je dirais expert contre expert, expert militant, ingénieur, mais qui a une activité, je crois, qu'on peut qualifier de militante malgré tout. Et c'est je crois, ce qui nous intéresse là. Alors je voulais dire simplement que ce dialogue donc entre sciences sociales, littérature et militantisme, il est évidemment très ancien. Pour ce qui concerne la littérature, on peut dire que les sciences sociales, en grande partie, sont des genres littéraires et sont issues en grande partie de la littérature. Je pense à l'histoire, à l'ethnographie, ou à l'ethnologie et à la sociologie. Et ici, à l'École des études, c'est quelque chose qui a toujours été valorisé, puisque je tiens à rappeler que des poètes et des romanciers ont été membres de l'École des hautes études, Milan Kundera, par exemple, ou Jacques Roubaud. Le lien avec le militantisme, évidemment, il est aussi très fort, le lien entre sciences sociales et militantisme, par toutes sortes de liaisons. Et là aussi, on peut rappeler toute une tradition, et rappeler aussi, par exemple, que quelqu'un comme Pierre Bourdieu a enseigné ici aussi à l'École d'autres études. Donc je veux dire, simplement, le plateau de ce soir ne me paraît pas du tout incongru de ce point de vue. Alors je voudrais simplement dire, présenter chacun des intervenants en disant précisément l'intérêt que j'ai trouvé dans leurs ouvrages d'un point de vue de chercheur en sciences sociales. D'abord donc le roman de Michael Ferrier, qui est, que voici... Fukushima, récit d'un désastre, qui est donc un récit, disons, à la première personne. Alors, je dirais entre le registre, la chronique des événements et le voyage initiatique, un mélange de choses vues et vécues qui nous font toucher du doigt, qui nous font voir et surtout sentir, je trouve, ce qu'est une catastrophe nucléaire, ce qu'elle laisse et ce qu'elle a fait disparaître dans l'expérience vécue des personnes ou vécue de l'auteur, en quoi cette situation altère des formes de vie. Et cette description est faite à partir de la saisie de détails infimes et de sensations, par exemple l'odeur de la boue, le sel dans les yeux, la pluie qui n'est plus de la pluie à partir du moment où on sait qu'elle contient du césium, donc on ne la considère plus comme de la pluie, comme on le faisait d'habitude. Donc des habitudes déréglées, des surprises quotidiennes, un dérèglement de la vie, en fait. C'est très, très rare de voir cela décrit, par exemple, en sciences sociales. Et là, il y a une espèce de leçon, je trouve, d'écriture qui est adressée pour le chercheur en sciences sociales. La littérature nous montre en quoi elle parvient à un degré de description du réel qui est très fin, qui est à la fois, disons, on pourrait presque dire phénoménologique, parfois poétique, évidemment, et dont, il me semble, les sciences sociales pourraient s'inspirer pour saisir d'un peu plus près ce qu'est l'expérience vécue et ce qu'est surtout le dérèglement de l'expérience vécue, ce qu'elle a parfois bien du mal à faire. Alors donc, ce que je voulais dire, c'est il y a bien des manières de lier conversation avec le travail de Michael Ferrier, mais... cette question de l'écriture, de comment on rend compte du réel, de ce qui s'est passé, me paraît particulièrement fructueuse. Par rapport à l'ouvrage donc de Bernard Laponche, coécrit avec Benjamin Dessus, là on change d'univers, si je puis dire, enfin de registre d'écriture également, puisqu'on se situe donc davantage dans l'expertise, mais j'ai envie de dire la contre-expertise, puisque l'ouvrage milite en faveur d'une cause, la sortie du nucléaire pour le cas français, et plus largement sans doute, mais il le fait en cherchant au maximum des preuves scientifiques, objectifs, techniques, de la nécessité et de la faisabilité de ce projet. Donc, à mon avis, le grand intérêt du livre, c'est pas simplement d'essayer de prouver la nécessité d'en finir avec le nucléaire, comme dit le titre, mais aussi de montrer comment on peut le faire techniquement et quel en serait l'intérêt. Alors ce souci de preuve ou d'objectivité rapproche le propos des sciences sociales et en même temps, évidemment, il reste un écart important. Il me semble que à bien des moments, l'ouvrage vient sur le terrain des sciences sociales, notamment quand il évoque les blocages politiques et sociaux dans la mise en œuvre de politiques alternatives. Et là, c'est vrai que finalement, nous en savons beaucoup grâce à la sociologie des politiques publiques, à la sociologie de la décision, à la sociologie des mobilisations. Nous avons appris beaucoup, enfin, il y a beaucoup d'études qui portent sur la façon dont des groupes de pression, des lobbies influent sur la prise de décision politique, sur la façon dont l'organisation de l'appareil d'État et de la bureaucratie favorise la reproduction de certaines situations, le rôle des experts, le rôle des médias, etc. et à n'en pas douter, il y a là un terrain d'échange possible, dans la mesure où ce travail de contre-expertise donc n'est pas simplement un travail technique, mais aussi un travail qui réclame une intelligence, je dirais, de la situation politique. Voilà. Et pour finir, avant de laisser la parole aux deux intervenants, je voulais dire un mot sur donc, ce qu'apportent les sciences sociales. Donc, elles ne seront pas réellement représentées, puisque je ne suis pas un spécialiste véritablement de la sociologie des risques, mais je tenais à signaler que c'est un domaine qui, et l'histoire aussi d'ailleurs, l'histoire des techniques et des risques, sont des domaines qui se sont énormément développés ces dernières années. Je vais juste citer les travaux, parce que bon, c'est parmi les plus connus, mais les travaux, par exemple, de Anthony Giddens, j'aurais pu prendre, par exemple, aussi Ulrich Beck, qui est très connu, et vous soumettre un petit peu la réflexion de Giddens sur ces questions. Donc, Giddens dit, en fait, il y a deux grandes catégories de risques. Les sociétés prémodernes ne connaissaient, dit-il, que des risques qu'on peut qualifier d'externes, parce qu'ils sont liés à des menaces que, disons, la nature fait peser sur l'humanité de l'extérieur. Les intempéries, les séismes, les inondations, les tsunamis, par exemple. Dans les sociétés industrialisées se développent des risques que Giddens appelle fabriqués, parce qu'ils sont liés aux conséquences des actions des humains par rapport à la nature. Donc c'est par exemple les risques d'apocalypse nucléaire, de pollution industrielle, de réchauffement climatique. Et ces risques, dit-il, sont très différents des risques externes. Pourquoi ? Parce que ce sont des risques par définition inconnus, nous n'en avons jamais fait l'expérience auparavant, puisque nous sommes en train de les créer par notre activité industrielle. Nous sommes donc incapables d'en estimer l'ampleur et la gravité, et de même d'en comprendre la nature. Et a fortiori, nous avons les plus grandes difficultés à y faire face comme il faudrait. Face à quoi, nous avons tendance à traiter ces risques que nous fabriquons nous-mêmes comme s'il s'agissait en réalité de risques externes, c'est-à-dire de risques qui nous viennent de la nature. Et donc Giddens en conclut à la nécessité de faire une sorte de révolution culturelle dans laquelle nous cessons de croire que les risques viennent de la nature, ces risques-là en tout cas, et comprendre qu'ils sont de notre propre responsabilité, que ces risques qui nous menacent, qui menacent l'humanité, sont le produit de l'humanité elle-même. Une compréhension qui est limitée par une sorte d'inertie qui fait que continuons à penser les risques comme étant exclusivement externes. Voilà, donc cette petite aperçu sur une théorie, il y en a bien d'autres, montre à quel point donc une perspective historique, sociologique sur ces questions peut-être apporter un éclairage qui n'est pas forcément du tout incompatible avec les deux autres éclairages, les deux autres types d'approches dont nous allons maintenant découvrir à travers les propos de nos deux invités. Alors, on a choisi d'organiser la séance en fractionnant, en faisant circuler la parole entre les deux intervenants. Donc je vais en quelque sorte les interroger. Et puis après, surtout, moi je pense que vous êtes là surtout pour poser des questions, j'imagine, exprimer des points de vue, et donc on essaiera d'aller assez vite vers un moment de discussion avec la salle. Mais pour commencer, je vais peut-être me tourner tout de suite vers Michaël Ferrier. Peut-être la première question que j'aimerais poser à chacun d'entre vous, c'est finalement très simple, hein, c'est pourquoi vous avez ressenti le besoin d'écrire ce livre, quelle était l'urgence à le faire, et pourquoi vous avez tenu à l'écrire de la façon dont vous l'avez écrit. Peut-être Michaël.
Oui, bonsoir. Pourquoi écrire ce livre? Je dirais que j'ai même pas pris la décision d'écrire ce livre. Quand il y a un tremblement de terre, on se jette sous la table. Et est-ce qu'on peut appeler ça une décision de se jeter sous la table? C'est un peu de l'ordre du réflexe de survie. Là, c'était, toute proportion gardée, un peu la même chose. J'étais à Tokyo le 11 mars 2011, lors du séisme. Et j'ai tout de suite su, sous la table, donc, que j'écrirais ce livre, même si je savais pas du tout la forme qu'il allait prendre. Mais donc, je dirais que ce livre, il s'est imposé à moi Donc j'ai pas vraiment pris la décision de l'écrire. Je pouvais pas faire autrement, tout simplement. Pourquoi ? Eh bien, la réponse peut-être est donnée dans les jours qui ont suivi le 11 mars, où en essayant de m'informer, évidemment, je me suis aperçu très rapidement d'une sorte de tourbillon, de carrousel incroyable qui s'emparait du langage d'abord, de la façon dont on présentait les choses. Et évidemment, quand on est écrivain ou quand on se prétend écrivain, tout ce qui touche au langage intéresse. Et là, c'était particulièrement intéressant, comique parfois, cruel le plus souvent. Par exemple, la façon de nommer la catastrophe dans les jours qui ont suivi la catastrophe, vous vous en souvenez peut-être, on a d'abord appelé ça un incident, ensuite un accident, ensuite une catastrophe. Donc déjà dans la façon de désigner l'accident, il y avait quelque chose de très intéressant qui se jouait dans le déni d'une part ou dans l'exagération peut-être de l'autre. Et cette affaire de rapport du réel et du langage, à mon avis, n'est pas du tout quelque chose de purement esthétique ou d'anodin. Je pense qu'il y a dans la question du nucléaire, il y a vraiment quelque chose qui se joue là et qui est essentiel. Je regardais hier encore sur Internet le site d'un ingénieur d'Areva qui a produit un rapport sur la catastrophe. Et qui continue à appeler ça un incident. On se souvient que la présidente ou la directrice, je ne sais pas son titre, Anne Lauvergeon, au début, effectivement, déclarait que ce n'était pas une catastrophe. On se souvient également que notre ministre de l'Industrie de l'époque, Éric Besson, avait également fait toute une série de volte-face sur ce problème précis de savoir est-ce que c'était une catastrophe ou pas. Et on retrouve évidemment ce genre de tournoiement ou ce genre d'hésitation, de tergiversation ou de mensonge, de manipulation, tout simplement parfois. On l'a retrouvé à tous les niveaux dans les jours qui ont suivi le séisme, le tsunami et les explosions dans la centrale nucléaire de Fukushima. On l'a retrouvé par exemple dans la façon de désigner les zones d'évacuation, de les calculer. On a d'abord évacué à 2 km, à 3. Alors c'est là où être écrivain, ça sert quand même un peu quand on prend des notes. J'avais pris par exemple des notes le 12 mars. Le premier secrétaire du cabinet donc du gouvernement japonais avait affirmé, j'en garde le souvenir écrit, lors d'une conférence de presse, et on pourrait retrouver ça quelque part sur le net, je suppose, le premier secrétaire avait affirmé que le réacteur ne subirait pas de fuite radioactive importante et que les personnes se trouvant au-delà d'un rayon de 20 km ne seraient pas touchées. Et évidemment, dans les deux semaines qui ont suivi, le gouvernement a fait évacuer non seulement dans un rayon de 20 km, mais ensuite a décrété une zone de confinement à 30 km. Et puis fin avril, il y a même eu dans certaines zones des zones d'évacuation spécifiques situées jusqu'à 50 km. Donc on retrouve ce même genre d'hésitation et qui, à mon avis, sont pas seulement des hésitations d'ordre scientifique. Il y avait aussi de la manipulation derrière, puisque dès pratiquement les premiers jours de la catastrophe, le gouvernement américain, lui, avait demandé à ses ressortissants d'évacuer à 80 km. Et on s'est rendu compte après que cette distance de 80 km manifestement n'avait pas été choisie tout à fait au hasard. Et c'est allé très loin puisque les bateaux américains, les bateaux de guerre américains qui se dirigeaient vers le Japon, à un moment donné, ont fait demi-tour parce qu'ils avaient franchi cette zone de 80 km. Donc là, on avait plusieurs niveaux, plusieurs degrés d'information en fonction de qui donnait l'information, en fonction de la personne à qui elle était destinée. Et évidemment, là, c'est un problème intéressant et, à mon avis, instructif. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle j'ai voulu écrire ce livre, c'est justement pour décrire ce qui était en train de se passer. J'avais la chance, J'utilise ce mot sciemment. J'avais la chance d'être au Japon à ce moment-là. Et donc, je me suis dit, c'est le moment ou jamais de décrire, non pas de pour dénoncer, comme je le dis souvent, mais pour simplement pour énoncer. Il ne s'agissait pas de faire une œuvre militante, même si je suis bien conscient qu'elle en a l'aspect par instant. Il s'agit simplement de dire ce qui se passe. Les responsables de la sécurité nucléaire de tous les pays nous bassinent à tout bout de champ en disant qu'ils vont faire des efforts de transparence, ils vont faire des efforts de communication. Depuis Fukushima, ils n'ont que ces mots à la bouche. Je dis chiche, allons-y, décrivons ce qui se passe dans une centrale nucléaire, décrivons ce qui se passe lors d'un accident de ce type, décrivons-le exactement, précisément, sans exagération, sans pathos, sans lyrisme, et après on pourra se décider peut-être sur décision démocratique, sur est-ce qu'il convient de conserver toute sa place à cette énergie, ou dans quelles limites, ou simplement la supprimer. Voilà. Enfin, un troisième point qui me semblait intéressant dans le fait d'écrire un livre qui est un livre littéraire sur ce sujet, c'est qu'on a assisté, après la catastrophe, à un défilé d'images, un déferlement d'images. Vous vous souvenez sans doute que toutes ces images tournaient en boucle pendant quelque temps au moins sur toutes les télévisions du monde, pratiquement. Et il m'a semblé que là, encore une fois, pour un écrivain, puisque vous avez évoqué cette spécificité de ce livre, pour un écrivain, c'était intéressant de se confronter à ce problème, à savoir qu'est-ce que l'image nous dit, nous montre, ne nous montre pas, et qu'est-ce que les mots, eux, peuvent apporter. Lorsqu'on passe par le filtre de la télévision, par le filtre des écrans, il y a des très grands photographes, et il y a eu des reportages photographiques extraordinaires sur Fukushima, et il y a sans doute de très grands cinéastes qui pourraient le faire, mais en règle générale, j'ai trouvé que cet afflux d'images était étourdissant, provoquait une sorte de sidération, de fascination même parfois un peu malsaine. Et il me semblait que là, la littérature avait son mot à dire, c'est le cas de le dire, pour rétablir un rapport au réel, et ici donc à la catastrophe, qui soit un peu plus juste, encore une fois. Dernier point, cette description, et c'est encore une fois une des forces de la littérature, cette description, aussi juste, aussi précise, aussi sensible soit-elle, elle peut aussi déboucher sur une analyse. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans la troisième partie du livre, qui s'appelle « La demi-vie, mode d'emploi », en développant donc une esquisse de réflexion que je reprendrai peut-être plus tard de manière plus théorique et plus argumentée sur ce que j'appelle la demi-vie, c'est-à-dire cette drôle de vie qu'on veut nous imposer aujourd'hui dans les territoires nucléarisés.
Merci beaucoup. Donc la littérature à la fois comme moyen de se distancier de l'événement, de le comprendre, de le mettre à distance, d'en proposer également une autre vision au sens fort, puisque on voit bien qu'à travers l'écriture, on a une vision plus forte qu'à travers l'image.
À travers une certaine écriture et par rapport à certaines images. Voilà. Plutôt qu'une vision, il s'agirait, pour prendre peut-être une comparaison ou une métaphore plus appropriée, il s'agissait pour moi de reprendre la main, c'est-à-dire de reprendre non pas le contrôle de ce qui est incontrôlable, mais de replacer devant moi, sur le papier, des éléments de décision d'abord, et de réflexion sur ce qui était en train de se passer.
D'accord. Alors, je vais donner la parole à Bernard Laponche avec la même question. C'est pourquoi avoir écrit ce livre et quelle en était l'urgence, éventuellement?
C'est complètement différent parce que j'ai commencé, j'allais dire, une vie commune presque, avec le nucléaire en 1961. Donc, c'est pas du tout...
J'étais pas né.
Une découverte. Et j'ai travaillé pendant 10 années sur les réacteurs nucléaires, je dirais en toute innocence ou en toute fausseté, c'est-à-dire pas du tout inquiété par les risques ou par ce qui pouvait se passer. Il faut bien savoir que dans les années 60, pratiquement personne ne regardait cette question. C'était même un certain enthousiasme pour une nouvelle technique, une nouvelle science. Enfin, c'était paré de toutes les vertus. Et j'ai changé très rapidement. Au début des années 70, parce que j'étais très militant dans le syndicat, et on a écrit un premier livre en 1975 qui s'appelait « L'électronucléaire en France » et qui, vraiment, pour la première fois en France, un livre très complet sur le nucléaire et sur ses risques. Et si vous le lisiez, vous avez un chapitre qui vous décrit à peu près l'accident de Fukushima, sans du tout les mêmes éléments déclencheurs, mais l'explication de l'accident. Et ce qui explique que, et après, donc, j'ai continué à de plus en plus à trouver que cette technique n'était pas maîtrisable et que donc il fallait en sortir. Et que par conséquent, à partir de là, j'ai travaillé sur justement comment, sur les alternatives, c'est-à-dire les économies d'énergie, les énergies renouvelables. Et c'est devenu mon métier, tout en restant critique vis-à-vis du nucléaire, et en particulier dans l'association qu'on a créée avec des amis en 1992, qui s'appelle Global Chance, et dont le président est Benjamin Dessus, qui a écrit avec moi ce livre sur Fukushima. Le premier, l'électronucléaire en France, avait été édité par Le Seuil, en 1975, puis en 1981, et c'est Le Seuil qui, au lendemain de Fukushima, comme on avait écrit beaucoup de choses sur cette question, à travers des publications, les cahiers de Global Chance, deux fois par an, pas seulement sur le nucléaire, mais souvent sur le nucléaire, qui nous a demandé d'écrire ce livre. Donc, c'est pas tellement une réaction personnelle, puisque je n'ai pas vu Fukushima, je ne suis pas allé au Japon. C'est plutôt la continuation d'un métier, presque, c'est-à-dire ce métier d'essayer d'expliquer d'abord comment ça marche, parce que moi je suis sidéré que la France ayant ce parc nucléaire colossal, le nucléaire étant une grande cause nationale, comme vous le savez tous, l'ignorance sur ce qu'est le nucléaire est abyssale, en particulier dans les dirigeants. Dans le gouvernement actuel et même dans les cabinets de ce gouvernement actuel, je connais peut-être une personne qui connaisse à peu près le nucléaire, ce qui est quand même assez extraordinaire. C'est-à-dire que ce système s'est construit dans un cercle relativement fermé qui a continué à prétendre, quels que soient les accidents, que le nucléaire français était sûr, qu'on avait la meilleure sûreté du monde, que ce qui se passait soit aux États-Unis à Three Mile Island en 79, soit à Tchernobyl en Ukraine, soit à Fukushima au Japon, ne pouvait pas se passer en France. Ce n'est que très récemment qu'on admet que l'accident est possible en France, mais qu'il ne se produira pas, parce que de toute façon, on prend toutes les précautions. Et donc, c'est un peu, comment vous dire, un devoir en tant que scientifique, plutôt que, enfin, c'est un devoir dont on s'est chargé, mais je pense que c'est une responsabilité éthique, d'expliquer, d'écrire, de dire comment ça marche et pourquoi. Et pourquoi ce risque existe et pourquoi ce risque n'est pas maîtrisable. C'est un peu donc la première partie de ce livre qui est de dire pourquoi il faut sortir du nucléaire. Parce que c'est dangereux, intrinsèquement dangereux, si vous voulez. C'est une machine qui crée elle-même sa propre destruction, dans ce sens que, au fur et à mesure que vous produisez de la chaleur, tout simplement, pour faire de l'électricité, ce qui est un nouveau moyen de chauffer de l'eau, vous fabriquez des produits radioactifs extrêmement dangereux. Et donc, il faut que vous garantissiez, vous, c'est-à-dire les ingénieurs, les scientifiques et tous ces gens-là, que vous garantissiez que ces produits radioactifs extrêmement dangereux ne sortiront jamais du réacteur. Vous ne pouvez pas garantir ça. Ça peut en sortir. Alors, le déclencheur peut être un tremblement de terre et un tsunami. Ça peut être une inondation beaucoup plus banale. Il y aurait pu y avoir ce type d'accident aux États-Unis avec l'ouragan tel qu'il s'est produit. D'ailleurs, les réacteurs ont été arrêtés. Il y en a un certain nombre qui sont toujours arrêtés d'ailleurs. Il n'y a pas eu d'accident parfait, mais c'était tout à fait dans les possibilités. Et je pense qu'un certain nombre d'Américains en étaient conscients. Et donc voilà, c'était presque de continuer à expliquer sans dramatiser, puisque moi, j'ai été horrifié par l'accident de Fukushima, comme tout le monde, mais pas surpris, si vous voulez. C'est-à-dire que cet accident est, entre guillemets, classique. C'est-à-dire qu'on sait très bien que s'il y a une perte de refroidissement, qui peut être causée de différentes manières, que je pourrais vous expliquer si vous voulez savoir comment, par exemple, causer un accident. Cette chose était décrite. Alors, elle ne s'était pas. À Three Mile Island, il y avait déjà eu un accident pratiquement le même, mais pour des causes internes à la machine elle-même, qui a foiré, puis aux gens qui l'ont mal piloté, disons. À Tchernobyl, c'était une raison un peu différente, mais c'est toujours cette question de perte de possibilité de refroidir le réacteur. Et à Fukushima, c'était Three Mile Island un peu plus grave, avec donc une explosion d'hydrogène. Et donc, vous ne pouvez absolument pas garantir, et les 58 réacteurs français actuellement en fonctionnement, qui produisent 75% de l'électricité en France, sont du même modèle, pratiquement, que le réacteur de Fukushima. Donc, il y a une possibilité, je ne parle même pas de probabilité, il y a une possibilité d'accident du même ordre, et en ce sens, le titre « Nous sommes tous habitants de Fukushima » a un certain sens, puisque nous sommes potentiellement des habitants de Fukushima, et je rejoins donc les conclusions de Michael sur cette nouvelle société. Et ce que vous disiez très justement au début, l'assimilation de ces risques causés par l'homme à des risques causés par la nature. C'est-à-dire que pratiquement l'accident nucléaire de Fukushima était assimilé à un truc un petit peu plus grave, s'ajoutant au tsunami et à l'inondation, mais de même nature. C'est-à-dire quelque chose sur lequel « the act of God », vous savez, ça arrive, mais vraiment, personne n'y est pour rien, quoi. On ne pouvait pas le prévoir. C'est vraiment épouvantable. Quelle horreur. Et oui, fatalité. Voilà. Ce n'est pas du tout une fatalité. C'est ça qu'il faut... Et donc, si ce n'est pas une fatalité, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont responsables et ça veut dire que des choses peuvent être changées. Autant un tremblement de terre, je pense qu'on n'a pas actuellement les moyens. On peut peut-être le prévoir, mais on ne peut pas l'annuler. On ne peut pas dire bon, on va supprimer les tremblements de terre par une loi. On peut supprimer le nucléaire par une loi. Et en ce sens, c'est quand même radicalement différent.
Et si je puis me permettre, dans l'ouvrage, vous ne vous contentez pas de nous dire pourquoi il faut sortir du nucléaire, vous nous dites aussi comment. Et c'est-à-dire, moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé tout à fait intéressant dans l'ouvrage, c'est de nous indiquer des scénarios et d'essayer de faire en sorte d'obtenir des scénarios réalistes, faisables. Donc, c'est pas simplement... une loi qui va abolir le nucléaire, c'est tout un ensemble de mesures à prendre en compte pour pouvoir sortir réellement du nucléaire.
C'est assez curieux d'ailleurs cette histoire parce que la question énergétique est importante, mais c'est l'une des rares sur lesquelles on connaît à peu près des solutions. Et c'est vraiment par une espèce d'obsession productiviste, un conservatisme digne du 19e siècle triomphant, qu'on continue dans la même voie. Mais si vous voulez, c'est pas très difficile de sortir du nucléaire. D'ailleurs, ce qui est très étonnant, j'ai étudié à la demande de copains la situation énergétique au Japon, indépendamment de l'aspect catastrophique et des victimes. Comment ça se passe ? Eh bien, le Japon a quand même perdu le tiers de son électricité. La consommation d'électricité en 2011 a diminué que de 10%. Ce qui n'est pas considérable. L'économie en quantité n'a pas tellement diminué. Et en fait, le remplacement, je dirais presque, du nucléaire par autre chose, je pense, va se faire de façon assez facile du point de vue économique. Je ne parle pas du tout des risques. Alors, pour le Japon, c'est soudain. C'est pas du tout de préparer, c'est pas de se dire bon, on va sortir du nucléaire par exemple en 10 ans ou en 15 ans, ça a été soudain. Donc c'est beaucoup plus difficile. Or ce qui est en train de se faire. En Allemagne, le nucléaire représentait à peu près un quart de la production d'électricité. L'Allemagne a décidé de sortir du nucléaire. Pour deux raisons. La raison en est le pourquoi, c'est-à-dire les Allemands, dans leur ensemble, puisque c'est une position unanime de l'ensemble des partis, des syndicats et des industriels, ont décidé de sortir du nucléaire pour trois raisons, qui sont les trois raisons que les anti-nucléaires, entre guillemets, français, ou les scientifiques critiques, présentent depuis le début, c'est-à-dire le risque d'accident grave sur lequel on ne peut pas maîtriser la technique, les déchets radioactifs et les risques de prolifération. Le gouvernement allemand a dit, voilà, ces trois raisons font qu'on quitte. On quitte en 10 ans, donc ils en ont arrêté certains, puis ils continuent à en arrêter. Et ils font des efforts dans le sens de ce qu'on appelle maintenant la transition énergétique, qui devient malheureusement un terme banal comme développement durable, donc il va encore falloir trouver autre chose, mais c'est à la fois les économies d'énergie et d'électricité et le développement des énergies renouvelables. En France... Le nucléaire représente 75% de la production d'électricité, mais à peu près les deux tiers de la consommation. C'est-à-dire, si vous regardez la consommation d'électricité en France, les deux tiers proviennent du nucléaire. Bon, donc c'est beaucoup plus que le tiers allemand ou que le quart japonais. Donc le tiers japonais et le quart allemand, pardon. Et donc c'est plus difficile. Donc ce qu'on a présenté dans le bouquin, mais qui est aussi présenté par d'autres experts, en particulier l'association Négawatt, qui a sorti un bouquin sur la transition en France, qui rejoint tout à fait notre scénario. Et d'ailleurs, le scénario Négawatt est plus complet que le nôtre. Ça consiste d'une part à faire des économies d'électricité, ce qu'on sait faire, parce qu'on gaspille l'électricité. Vous n'avez qu'à voir la consommation des panneaux publicitaires, vous savez, qui bougent maintenant dans le métro, là, qui vous font des films, à la poste aussi, il y a des films imbéciles, à la poste, on ne sait pas pourquoi. Ben, un panneau de métro consomme sur une année autant que deux ménages. Bon. Donc, il y a un potentiel d'économie d'électricité très important. Je suis obligé de vous donner quelques chiffres parce que c'est complètement inconnu. La consommation d'électricité, bon, c'est un certain nombre de milliards de kilowattheures. Moins d'un tiers, c'est l'industrie. Alors qu'on nous bassine tout le temps, on a besoin d'électricité pour notre industrie, etc. 3%, c'est les transports. Les métros, le TGV, etc. C'est 3%. Donc on peut développer les métros, les TGV. C'est pas ça qui va augmenter beaucoup la consommation d'électricité. Les deux tiers, c'est dans les bâtiments, c'est-à-dire les logements et les bureaux, les écoles spéciales, instituts, etc. Donc sur ces deux tiers, vous avez une partie de chauffage électrique, mais la majorité, c'est l'éclairage, l'électroménager, l'audiovisuel, l'informatique. C'est-à-dire des usages sur lesquels vous tous, à la limite, vous pouvez limiter votre consommation. Et donc, on fait une hypothèse de réduire de 15% la consommation d'électricité sur une dizaine d'années. C'est pas du tout inatteignable. C'est même, on devrait le faire, quels que soient les choix sur le nucléaire. Si vous faites ça, vous arrivez en une dizaine d'années ou douzaine d'années de diviser par deux le parc nucléaire français, ce qui est déjà pas mal. Et sur une vingtaine d'années, en arrêtant les réacteurs au fur et à mesure qu'ils arrivent à 40 ans, c'est-à-dire leur vie à peu près prévue, donc je suppose qu'il n'y a pas d'accident. Hein. Je suppose qu'on fait attention, qu'on a de la chance, puisqu'il y a beaucoup de chance dans cette affaire d'accident. En une vingtaine d'années, on peut à la fois sortir du nucléaire et avoir un système énergétique tout à fait valable, qui est tout à fait expliqué, je vous dis, par Négawatt. Donc, c'est vraiment une question, un, de volonté politique, que tout le monde s'y mette, que l'industrie soit orientée dans ce sens. Et l'Allemagne fait ça et le dit, parce qu'elle considère qu'actuellement, dans ces domaines, et c'est vrai, elle a beaucoup d'avance, qu'elle a à peu près 30% du marché mondial de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables, qu'elle pense que le monde entier, et elle a raison, va s'orienter vers ça, parce qu'il y a épuisement des ressources fossiles, et puis le nucléaire, quand même, on a pris un coup. Et donc l'Allemagne, pour des raisons économiques et industrielles, prend le virage. Donc si vous voulez, c'est très intéressant, parce que l'Allemagne, c'est pas Chypre, donc c'est quand même la première puissance économique européenne, la troisième ou quatrième mondiale. Et donc c'est très intéressant de prendre cet exemple-là en disant ben, Siemens a décidé de ne plus faire de nucléaire, non seulement pour l'Allemagne, puisque c'est une décision politique, mais aussi pour l'export. Et Siemens n'est pas n'importe quoi. Donc si vous voulez, le comment est parfaitement faisable. C'est pas très facile, parce que bon, c'est un peu compliqué, c'est pas une question de technique, on sait faire, on sait isoler les maisons, le problème c'est comment on isole, comment on fait tout ça, etc. Donc ça, ça demande des développements, mais c'est faisable. Et donc la balance entre les deux est relativement facile, si vous voulez. Vous avez d'un côté une technologie, donc tous les gens vraiment sincères reconnaissent qu'elle n'est pas maîtrisable, y compris des ingénieurs ou des physiciens qui ne sont pas mêlés au milieu nucléaire. Par contre, le milieu nucléaire est tellement fort, et à tous les niveaux en France, qu'il y a un déni total de ce risque. Et c'est ça le drame social, je veux dire sociologique, c'est qu'il n'y a absolument pas la reconnaissance. Un dernier mot, sur le site du gouvernement français, je crois que ça n'y est plus. Pas du tout parce que je l'avais trouvé, mais ils ont pensé eux-mêmes que peut-être c'était malvenu. Vous alliez dans accident nucléaire. Dans l'accident nucléaire, vous trouviez Tchernobyl. Tchernobyl, alors peut-être, je ne sais pas s'il n'y avait pas incident, peut-être, il y avait accident. 32 morts à court terme. Point. C'est le site officiel. 32 morts à court terme. Il y a 2 ans, donc 20 ans presque, pratiquement après Tchernobyl. Et ça, c'est parfaitement significatif de la classe dirigeante française, politique, économique, haute administration, enfin, la couche dirigeante.
Je voudrais juste rebondir justement sur ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que le nucléaire, notre gestion du nucléaire est très révélatrice au fond de nos institutions politiques, de la façon dont fonctionnent nos démocraties. Et précisément, c'est la question que je voulais poser à Michael Ferry au sujet du Japon, parce que Bernard Lapanche dit que lui, il n'a pas été au fond surpris par Fukushima. Je voulais savoir si vous l'avez été, et si vous avez été surpris aussi, si la société japonaise a été surprise, et si vous avez été surpris par sa... Parce que l'événement a révélé sur le fonctionnement de la démocratie japonaise, des institutions, du rapport des citoyens à ces questions, entre l'éventuel déni, la colère, la faiblesse de certains mécanismes de contrôle démocratique, etc.
Moi, je ne travaille pas dans le nucléaire, donc quand il y a 3 réacteurs nucléaires en train de se faire la malle à 250 km au-dessus de votre tête, vous êtes non seulement surpris, mais un petit peu inquiet. Est-ce que la société japonaise a été surprise ? Oui. Oui, c'est évident. C'est évident et pour des raisons historiques très simples, c'est qu'on a commencé à développer l'atome au Japon après Hiroshima quand même, dans les années 50, sous la pression des Américains. C'est ce qu'ils appelaient, c'est ce que Eisenhower, dans un fameux discours, un discours resté célèbre, a appelé « Atom for Peace ». C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a construit une fiction qui était celle d'un atome, d'une utilisation de l'atome uniquement pacifique. Et il y a des tas de films qui montrent ça très bien, des films d'époque où effectivement on voit des gens en train de faire des manipulations dans des expositions à Osaka, à Tokyo, et où on filme des visages d'enfants éblouis par ce sommet de technicité. Et donc il y a eu cette espèce de lien qui a été fait entre l'atome et la paix. Et ça, quelques années après Hiroshima. Et il faut bien se remettre dans ce contexte-là. Un des grands héros de bande dessinée pour les enfants au Japon, c'est un petit garçon qui a un cœur atomique, qui fonctionne avec donc l'énergie atomique, donc qui est vu comme un personnage tout à fait positif, joyeux, qui est toujours en train de rire, qui sauve les faibles et les démunis. La réalité, on était dans une espèce d'hypnotisme savamment entretenu d'ailleurs, mais la réalité de cette situation, c'est que évidemment il y avait déjà à ce moment-là, dans les années 50, une lutte économique et financière pour le développement des centrales nucléaires, dont on pressentait et même dont on savait déjà à l'époque que c'était une industrie qui pouvait rapporter beaucoup d'argent. Et donc le développement de l'atome au Japon a été fait en grande partie sous l'influence américaine, pour contrer le développement de l'atome en URSS. Donc il y avait des intérêts commerciaux énormes derrière, mais qui étaient masqués, disons, peut-être parfois en toute bonne foi, en toute honnêteté, on ne sait jamais, par des savants qui effectivement croyaient dur comme fer à ce qui s'est révélé être une fable. Même si, effectivement, l'énergie atomique, les radiations ont aussi des effets bénéfiques en médecine, etc. Donc, la société japonaise, pour répondre à votre question, oui, elle a pris une sacrée claque, mais elle a réagi extraordinairement rapidement, je trouve. Là, je parle de la société civile. Elle a réagi très rapidement. Il y a un livre qui a été publié aux éditions Piquier en mars 2012, en même temps que Fukushima récit d'un désastre. Et c'est un livre qui s'appelle L'archipel des séismes. L'archipel des séismes aux éditions Piquier, c'est un ensemble, je crois qu'il y a une trentaine de textes ou à peu près, de japonais, uniquement de japonais. Et il y a de tout. Il y a des poètes, il y a des sociologues, il y a des historiens, il y a des scientifiques, des sismologues. Et il y a une espèce de réflexion énorme qui s'est mise en place en à peine un an au Japon. Je connais peu de pays qui auraient été capables, à mon avis, de produire cette énorme masse de connaissances et de réflexions en un laps de temps si court. En revanche, et ça va répondre aussi à la fin de votre question, en revanche, il est clair que la classe politique est d'une incompétence totale. Là, je rejoins tout à fait les propos de Bernard. Songez que le Premier ministre Naoto Kan, par exemple, il a fait son mea culpa hein, depuis... mea culpa tardif, alors qu'il n'était plus au pouvoir. Donc il y a effectivement une corruption certaine, une collusion au moins entre les élites politiques et certains grands groupes industriels et financiers qui aujourd'hui encore poussent à la reprise. Il y a des centrales nucléaires qui sont encore en construction au Japon, il faut le savoir. Donc là, on a effectivement un problème avec une société civile qui, dans son immense majorité quand même, est désormais très hostile au nucléaire, et on la comprend, et une traduction politique qui peine à venir, qui est lente, qui est douloureuse et difficile.
Et est-ce que les gens s'organisent à travers des mouvements antinucléaires qui se seraient renforcés? Est-ce qu'il y a une activité politique antinucléaire qui fait pression sur le personnel politique?
Oui, alors là-dessus, il y a eu énormément de manifestations. Il y en a toujours à l'heure où je parle. Hein. Ça a étonné beaucoup d'observateurs de la société japonaise. Il y a eu une espèce de mythe comme quoi le Japon serait un pays un peu apathique, soumis, docile, obéissant. C'est tout à fait faux. Il y a une grande tradition de révolte au Japon. Simplement, elle ne prend pas les mêmes formes que chez nous, par exemple. Il y a un très bon livre de Philippe Ponce qui explique ça. Mais il y a eu énormément de manifestations dans un pays où la manifestation n'est pas le mode habituel, traditionnel de la protestation publique. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est que ces manifestations... Il n'y avait pas autant de monde que dans les manifestations en France. Parce qu'en France, quand vous faites une manif, en gros, vous essayez de rassembler le plus de monde possible, une énorme masse. Vous allez de la Bastille à la République, et puis un samedi après-midi, c'est terminé, vous avez fait une démonstration de force, et après, le dialogue peut reprendre. En gros, c'est comme ça que ça se passe. Au Japon, pour des tas de raisons historiques, culturelles et même spatiales, topographiques, on va dire, dans la ville de Tokyo, c'est pas évident de faire des manifestations. Au Japon, donc, ces manifestations ont eu lieu, elles continuent de façon très répétée. Il y a une fréquence des manifestations qui est très étonnante. Ce sont des manifestations très festives, très joyeuses. Et ça continue chaque semaine dans des endroits ciblés, dans certains parcs, devant la résidence du Premier ministre. Il y a effectivement des mouvements sociaux très forts, des mouvements citoyens très forts. Il y a aussi, il faut le dire, des dissensions au sein des mouvements antinucléaires, notamment entre les mouvements antinucléaires de Fukushima ou de la région de Fukushima elle-même, c'est-à-dire les quatre préfectures qui ont été touchées par le séisme, le tsunami et la catastrophe nucléaire au plus près donc, de la centrale, et les mouvements antinucléaires de Tokyo, par exemple. Et ça, ce sont des vieilles dissensions que Ohé Kanzaburo décrivait déjà dans les années... à la fin des années 50, début des années 60, dans Notes de Hiroshima, mais qui sont revenus effectivement aujourd'hui sur le devant de la scène.
Peut-être juste une dernière demande de précision là-dessus. La dimension internationale de ces mouvements antinucléaires, est-ce qu'il y a la constitution de réseaux internationaux ou bien de...
Oui, mais pas assez. Ouais. Il y a des ébauches de coopération, mais vous savez, on est quand même face à... On est face à des pouvoirs colossaux qui ont de l'argent, qui ont les médias, qui ont des moyens de pression énormes.
Et précisément, peut-être on peut revenir vers le cas français avec Bernard Lapanche. C'est un peu David contre Goliath, cette affaire. Quels sont les relais politiques que vous pouvez avoir? Quels sont les relais peut-être même dans le monde du nucléaire hein, est-ce que tout le monde est absolument insensible aux idées que vous amenez ici, puisque vous les amenez, encore une fois, dans une forme qui est compatible avec une culture technique Quel est l'écho, en fait?
C'est assez curieux. C'est curieux, c'est intéressant. Depuis qu'on écrit nos articles, puis ce livre, personne ne nous a dit qu'on disait des choses fausses, ce qui est déjà pas mal. Et quand le livre, le premier, l'électronucléaire en France en 1975, c'est une anecdote mais qui est très significative. Il y a un type, donc j'étais à la CFDT, puis il y a un type de la CFDT de l'EDF qui vient un jour nous voir, qui était au conseil d'administration, qui nous dit, écoutez, c'est très embêtant, votre livre, le directeur de la production d'EDF, qui était Monsieur Hugues, qui a vraiment construit les centrales nucléaires, donc c'était quelqu'un d'assez remarquable en tant qu'ingénieur, il a dit en plein conseil d'administration que votre livre était plein d'erreurs. Alors, quand un mec comme ça dit que notre livre est plein d'erreurs, bon... Et on lui a dit, et d'ailleurs, il voudrait parler avec vous, ou je sais pas quoi. Donc on lui a dit, bah, écoute, qu'il nous reçoive. Donc tout le bureau national, on devait être 10, a été reçu par Monsieur Hugues. Et on lui a dit, alors? Et alors, il est parti dans un discours sur la fin d'énergie dans le monde, le fait que les Pakistanais étaient très pauvres, qu'il fallait absolument qu'ils aient de l'électricité, qu'ils avaient besoin du nucléaire, et pas un mot sur les erreurs qu'il aurait trouvées dans le livre. Donc on est reparti tout content du fait qu'il n'y avait pas d'erreur dans notre livre. Mon père en a trouvé une, mais c'est le seul. Bon, donc il était plutôt meilleur que Monsieur Hugues, qui probablement n'avait pas lu le livre d'ailleurs. Donc si vous voulez, il y a à la fois le fait qu'on est reconnu comme étant des gens compétents sur ces questions, mais on a tort. Vous voyez, ce qu'on dit n'est pas faux, mais on a tort. Et le patron du CEA nous avait félicité pour la qualité du livre en question, la partie technique, mais, disait-il à la fin de sa lettre, je ne suis pas d'accord avec vos conclusions. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que quand on a des contacts avec des gens, disons, qui ont eu des postes de responsabilité, personne ne nous dit que ce qu'on dit est faux, mais ce n'est pas recevable. Et c'est ce que disait Michael sur la puissance. Quand vous voyez que vous avez... En plus, c'est la puissance de l'État en France, c'est-à-dire que c'est vraiment le CEA, c'est à la fois l'atome civil, l'atome militaire et une grande partie de la recherche non nucléaire, d'ailleurs. C'est vraiment un énorme organisme. L'EDF, c'est la plus grande compagnie d'électricité du monde. Donc c'est une puissance non seulement financière, économique, mais aussi... Il y a partout des gens d'EDF, peut-être aussi dans cette salle, je n'en sais rien. Mais dans les conseils municipaux, le responsable, celui qui connaît l'énergie, c'est quelqu'un qui est à EDF ou qui a été à EDF. Areva, n'en parlons pas. Et donc, c'est une puissance financière telle que même les médias, qui, au moment de Fukushima, ont quand même sorti des choses et tout ça, et sont d'une certaine façon rentrés dans le rang, parce que il y a les pages de publicité. Et donc l'écoute est faible. L'écoute est faible. Alors bon, il y a quelques députés compétents, mais il n'y en a pas beaucoup. Et qui eux aussi essayent de ramer pour obtenir un certain nombre de choses. Mais l'ennui, c'est que le nouveau gouvernement est aussi, contaminé. Par justement ce haut de la pyramide qui est constitué de la haute administration, le corps des mines pour ne pas le nommer, les inspecteurs des finances qui sont aussi pour nucléaire, vous savez pas pourquoi, mais simplement parce qu'en France, si vous voulez faire une carrière, quelle que soit la carrière en question, eh ben, si vous êtes anti-nucléaire, c'est pas possible. Donc, même si vous êtes proche de nos idées, vous ne le dites pas. Et ça, c'est très fort. Et juste pour terminer, encore une année, il y avait un sociologue suédois qui avait fait une étude à la fin des années 70 pour justement essayer d'expliquer les différences entre les pays sur cette question du nucléaire. Et en particulier le fait qu'en France, où le mouvement antinucléaire était beaucoup plus puissant dans les années 70 qu'il peut être aujourd'hui, et il avait conclu, après cette comparaison entre tous les pays, qu'il y avait deux pays dans lesquels il n'y avait pas de problème pour le nucléaire, c'était l'URSS et la France. Du fait de, si vous voulez, de cette espèce de capacité militaro-industrielle et de l'appareil d'État pour faire un bloc qui était constitué non seulement de ce que j'ai cité, mais des préfets et des CRS. C'est-à-dire que vraiment, il n'y avait pas moyen de passer à travers ça, quoi.
Non. en même temps, donc ça fait peut-être plus de 40 ans que vous défendez les idées qui sont dans ce livre. Donc peut-être que vous pouvez témoigner en tout cas de l'évolution de la place de ces mouvements antinucléaires. Est-ce qu'ils ont une place malgré tout croissante? Est-ce que la conscience écologique, quand même, on peut l'imaginer, progresse? Donc, enfin, c'est pour rajouter une petite note d'optimisme dans ce que vous dites. Et peut-être que vous nous expliquez qu'est-ce qui a changé finalement depuis 40 ans dans le rapport au nucléaire, grâce ou à cause des mouvements antinucléaires.
Si vous voulez, ça a été une succession d'alliances et de déceptions. Dans les années 70, il y a quand même eu, à la fin des années 70, une alliance qui était très forte. Et il y a eu une fameuse conférence de presse un an avant les élections présidentielles de 81, où il y avait à la tribune M. Mitterrand, Mme Bouchardot, le secrétaire national de la CFDT, Brice Lalonde, qui était le président des Amis de la Terre. Enfin, bon, ça représentait quand même des forces assez, assez diverses. Et tout s'est écroulé après 81, puisque les engagements de l'époque n'ont pas été tenus. On a continué le nucléaire. Et donc, ça a été vraiment un coup, si vous voulez, par rapport, justement, à cet espoir qu'il y avait eu d'un changement dans ce domaine. Après, il y a eu donc la continuation du programme nucléaire. Et donc, on peut dire que les mouvements se sont beaucoup appauvris. Les luttes contre Superphénix, qui avaient quand même été assez tragiques, avaient montré à quel point le pouvoir n'admettait aucune contestation. Et que si la contestation devenait forte, il était prêt à taper. Et il y a eu d'ailleurs des endroits où il a effectivement tapé. Et donc, les choses sont revenues un peu avec Tchernobyl, mais il faut voir que Tchernobyl et plus tard Fukushima ont beaucoup de répercussions dans la tête des gens. Voilà. Je pense que les gens seraient très contents qu'on quitte le nucléaire. Mais, du fait de la puissance du bloc pro-nucléaire, ben, ils se taisent. Et ils passeraient pour des idiots dans leur famille ou dans leur cercle professionnel s'ils défendaient le fait qu'il faut sortir du nucléaire. C'est vraiment... Socialement, cette histoire est assez dramatique. C'est à peu près les mêmes problèmes que pour l'arme nucléaire. L'arme nucléaire, dont de très bons esprits considèrent que non seulement elle est néfaste, mais elle est en plus totalement inutile, est un sujet dont on ne peut pas parler en France. Et le nucléaire civil, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que si vous faites partie de la bonne société, vous êtes pro-nucléaire par définition. Alors, donc, il y a une plus grande perméabilité dans la société. La société, d'ailleurs, est beaucoup plus active sur les alternatives qu'elle l'était à l'époque. À l'époque, on commençait à dire il faut faire des économies d'énergie, il faut faire des énergies renouvelables, mais bon, on ne savait pas trop si ça pouvait marcher. Aujourd'hui, on sait que ça peut marcher. Et il y a des initiatives dans les territoires, dans des communes. Donc ça, c'est assez actif. Par contre, sur la question nucléaire, les antinucléaires, quels qu'ils soient plus scientifiques ou moins scientifiques, enfin, les scientifiques, ils se taisent parce qu'il faut que leur programme soit financé. Donc les scientifiques ne disent rien sur cette question. Vous en trouverez une demi-douzaine, peut-être même pas. Parce que ben, il faut que les programmes de recherche soient financés, que c'est financé grosso modo par l'État, et etc., etc. Donc, mais les mouvements, les militants disons antinucléaires sont beaucoup plus instruits et capables qu'à l'époque. La plupart savent comment ça marche, les risques, les dangers, les papiers qui sortent sont bons, les élus qui connaissent le nucléaire le défendent, enfin, en parlent avec capacité, etc. Mais je vous dis, le bloc qui est au sommet est très imperméable. Et ça, c'est vraiment un problème.